Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Bon, le titre est choquant. Malgré les 100 millions de dollars de Québec, plus de 19 000 personnes, ça c'est au bon mot, je suis sûr, attendent encore pour voir un psychologue. Avec nous, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groulx. Madame Groulx, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
D'abord, où est allé l'argent? Comment ça se fait qu'on attend autant? Est-ce que c'est normal? Voulez-vous la liste de questions? Je pense que c'est assez simple.
Je vais essayer de faire une réponse claire. D'abord, où est allé l'argent? Je ne sais pas si elle a été dépensée. C'est pas dans mes coffres, alors je peux pas vous dire. Mais ce que je sais, en fait, c'est que d'abord, avant la crise, il y avait des tonnes de personnes qui attendaient déjà pour des services. Donc, on parle de 26 000 jeunes. Puis c'est sûr que l'accès aux services en santé mentale était pas facile avant la pandémie. Là, on est arrivé en pandémie, puis on a eu plusieurs vagues. Alors, c'est sûr que les soignants sont débordés. Et quand le ministre Carman a annoncé une offre d'achat de services au privé pour venir prêter main forte au système public pour diminuer les listes d'attente, évidemment, on avait plusieurs psychologues qui levaient la main, puis on avait des milliers d'heures disponibles. Mais ça, c'est au mois d'octobre l'année passée, donc ça fait un an. Et entre le moment où l'offre, où ça est arrivé puis où l'offre de service s'est déployée, il y a 6 mois qui se sont écoulés, on était en troisième vague, la situation s'aggravait. Et là, les cabinets privés des psychologues débordent, chose qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que avant au moins, c'était pas équitable, mais tu disais si les gens ont des sous, ils peuvent aller au privé, mais ce n'est même plus vrai au moment où on se parle, parce que là aussi, les gens doivent attendre. Alors, c'est une situation qui est un peu sans précédent, je vous dirais.
OK, mais est-ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a plus de demandes? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont angoissés?
Ben, il y a définitivement plus d'atteintes au niveau de la santé psychologique et de la santé mentale parce que il y a un an, on avait fait une revue de la littérature parce qu'il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale, puis on vient de le refaire, là. Et on avait sondé nos membres, autant ceux qui sont en bureau privé que ceux qui sont dans le réseau public. Puis les deux convergeaient, c'est-à-dire que ce qu'on constatait, autant dans les recherches que ce que les psychologues nous disaient, c'est que la santé mentale de la population se détériorait. Puis au premier chef, on avait évidemment beaucoup d'anxiété, donc des gens qui consultaient pour de l'anxiété ou des problèmes reliés aux troubles anxieux. Puis au deuxième chef, on avait les troubles dépressifs. Puis après ça, ça en déclinait une série d'autres. Donc évidemment, les difficultés relationnelles, les tensions dans le couple, les tensions entre les ados et leurs etc., etc., l'augmentation de la consommation de certaines substances, puis même des difficultés d'attention-concentration là, que les gens alléguaient. Ça ne veut pas dire que tout le monde est tombé malade, mais c'est sûr que les gens se portent moins bien.
Mais Mme Groulx, est-ce qu'il y a une liste de priorités? Si vous avez 10 appels là, pour avoir un rendez-vous, puis il y en a un qui dit bon ben je vis de l'anxiété, puis l'autre dit j'ai des problèmes de santé mentale, je vais peut-être m'en prendre à ma famille. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour dire je vais en traiter un avant l'autre?
Ben, si quelqu'un m'appelle, moi, par exemple, en cabinet, d'abord, si quelqu'un m'appelle pour dire, écoutez, j'ai peur de m'en prendre à ma famille, je vais le référer dans un centre de crise, puis dans une urgence, parce que là, faut intervenir rapidement.
Ouais.
Alors, ça, c'est des choses qui peuvent pas attendre. Après ça, on peut donner accès à des soins et services, mais il y a des interventions ponctuelles qui doivent être faites rapidement, soit dans le communautaire, soit dans les urgences, soit dans les centres de crise, puis il faut être capable d'orienter la personne rapidement. Mais pour ça, justement, il faut avoir un contact téléphonique puis donner les informations à la personne. Mais si, par exemple, un psychologue ou une psychologue a 30 clients dans sa pratique, c'est bien difficile quand les personnes sont en traitement de donner congé à l'un pour dire « faut que je fasse de la place à l'autre
».
Dans le réseau public, on est capable de faire une réflexion collective puis de regarder qu'est-ce qu'on va prioriser. Puis c'est ça qu'on a fait avec les années, c'est-à-dire on a restructuré un peu les façons de soigner à telle enseigne que ben actuellement, on n'est même pas certain que les gens ont accès à aux soins dont ils ont besoin, puis c'est un peu ça qui est en train d'être réfléchi.
Mais quand on lit, Mme Groulx, là, 19 000 personnes qui attendent pour voir un psychologue, puis aussi, on lit en même temps, 1400 patients du réseau public ont été orientés vers des services en santé mentale ou privée. Est-ce qu'il y a des ponts entre le public et le privé? Est-ce que c'est quoi le problème entre les deux? Je sais bien que le privé est financé, puis bon, tu payes, puis c'est plus rentable. Les psychologues sont mieux payés. Mais est-ce qu'il y a vraiment un système à deux vitesses?
Il y a définitivement un système à deux vitesses. D'abord, je voudrais juste préciser que les 19 000 personnes qui sont en attente ne sont pas nécessairement en attente juste pour voir un psychologue. Ils sont en attente pour avoir des soins et services de santé mentale, dont fait partie la psychologie. Mais il y a d'autres soins et services en santé mentale qu'on peut donner. Puis donc, ces gens-là sont en attente pour une diversité de soins, selon ma compréhension. Mais les partenariats entre le public et le privé, en psychologie, c'est une première. C'est-à-dire que l'offre d'achat de services en privé en pandémie, c'était vraiment une première. En général, c'est vraiment deux mondes, puis c'est deux mondes complémentaires parce que c'est pas les mêmes problèmes qu'on soigne, c'est pas la même gravité, c'est pas la même complexité, et je vous dirais que les deux sont nécessaires. Par ailleurs, ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que c'est normal dans notre société en 2021 qu'il faille se demander est-ce qu'on a les moyens de se faire soigner? Mm-hmm. Ça, c'est une autre question.
Oui, parce que quand t'es rendu au privé, là, le privé, ça peut coûter cher, là, c'est par semaine.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont des assurances privées par ailleurs, hein. Faut comprendre que c'est pas tout le monde. Puis c'était ça un peu l'idée du fameux programme québécois d'accès à la psychothérapie, parce que les gens qui ont des assurances privées via leur employeur ou tous les gens qui sont malheureusement des accidentés de la route ou des accidentés du travail, eux via la CNES ou la SAC ont accès à des programmes de psychothérapie. Mais ça, c'est pas tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui a des assurances non plus. Puis souvent, les plus jeunes, les aînés ou ceux qui sont sans emploi puis qui ont des facteurs de vulnérabilité, ben ils n'ont pas accès justement à ces programmes d'assurance-là.
Mais je comprends pas, parce que là, le ministre délégué à la Santé et Services sociaux, Lionel Carman, a présenté il y a un an, en novembre 2020, un plan d'urgence en santé mentale. Puis là, on disait que ça va répondre aux besoins criants de la population pendant la pandémie. C'est il y a un an. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des résultats qui, de toute évidence, sont pas satisfaisants. Alors, il est où le problème entre les intentions du gouvernement et les services à la population?
D'abord, il y a plusieurs problèmes, à mon sens, puis je suis pas certaine d'avoir toutes les réponses, mais un des problèmes, c'est la vitesse d'exécution avec laquelle on est capable de mettre en place quelque chose quand on le décide. Et comme je vous dis, entre le moment où on a fait cette annonce-là puis le moment où ça s'est déployé, il y a eu un espace-temps d'environ 6 mois. Et donc, pendant ce temps-là, bien évidemment, les difficultés se sont aggravées. Ça, c'est un élément. Mais l'autre élément, c'est la durée de la pandémie et le fait il y a un an, là, on pensait que on n'a pas pu éviter la deuxième vague. On pensait qu'on sauverait Noël. Finalement, on n'a pas sauvé Noël. Il y a eu une troisième vague et les gens se sont fatigués psychiquement. Ce sont, pour certains, je vous dirais qu'ils se sont plus que fatigués. Donc, ils sont devenus moins bien. Alors, puis c'est sûr que les gens qui étaient déjà sur des listes d'attente, faut comprendre que attendre quand on va pas bien, c'est pas une bonne idée parce que ce qu'on soigne pas, mais ça s'aggrave.
Ouais, mais en même temps, Mme Groulx, là, tu sais, t'attends parce que t'es anxieux. Tu dis, OK, j'ai un budget X, là, pour la santé des gens, mental ou physique. T'attends, si t'as une crise cardiaque, tu vas passer avant, l'argent va aller là. Est-ce que la crise, là, qu'on a connue, là, avec Carey Price puis Jonathan Drouin, puis là, tout à coup, on en parle sur la place publique, est-ce qu'on se rend compte que les problèmes de santé mentale, là, c'est un service essentiel, là, qu'on devrait offrir au Québec?
On a commencé à en parler, je vous dirais, à la fin d'été dernier, quand il y a eu des événements malencontreux là dans la ville de Québec, puis quand on s'est rendu compte que effectivement, on voyait une augmentation des événements tristes, une augmentation, par exemple, de certaines violences qu'on n'était pas nécessairement heureux de voir, et là, on a attribué effectivement que la santé mentale était peut-être mise à mal, mais Mais donc, je pense que il y a un an, on le savait. Mais cela dit, avant la pandémie, je vous dirais que ce qu'il fallait, c'est investir la santé mentale au-delà du discours, parce que c'est sûr que on le dit qu'il faut l'investir, mais il faut le faire. Puis il faut le faire avec des investissements substantiels, avec des moyens réfléchis, puis qui sont pérennes aussi.
Mais, mais mettre de l'argent au problème, Mme Groulx, ça le réglerait comment?
Je pense qu'il faut que tout le monde se serre les coudes ici. Il va falloir investir dans le communautaire, parce que puis même, je vous dirais, dans les CLSC, les cliniques de médecine familiale, parce que c'est là que les gens s'adressent. Et c'est là, souvent, où on voit énormément de problèmes de santé mentale. Puis je vous dirais que ça engorge même le système. Alors là, il faudrait mettre des ressources et ne pas attendre, justement, que les choses deviennent graves et complexes pour offrir notamment le traitement psychothérapeutique. Puis l'autre chose qu'il faut regarder, c'est ça qui est en train d'être regardé actuellement, c'est quels sont tous les traitements qui doivent être mis à la disposition des gens. Puis le grand défi, c'est de bien évaluer le problème puis de bien répondre au problème au moment où il se passe. Et non pas d'être dans une offre de service où on a des services à offrir puis ça correspond pas nécessairement aux besoins de la personne qui consulte. Ça, c'est le grand défi.
OK, mais OK. En conclusion, Mme Groulx, là, à quoi servent les CLSC? Si c'est un réseau là que... Moi, je suis toujours là à me demander, à part d'envoyer des infirmières, puis c'est important, là, après une naissance, mais... À quoi servent les CLSC? C'est pas un exemple où là, on pourrait aider les gens dans leur quartier, dans leur communauté?
Oui, ben définitivement, clairement. Puis c'était ça l'objectif d'un plan d'accès à la psychothérapie. Mais si vous appelez dans un bon nombre de CLSC aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vont vous répondre qu'ils n'ont ni psychologue, ni personne qui peuvent pratiquer la psychothérapie. Alors, ils vont vous offrir d'autres services. Puis les autres services sont excellents. Mais si tu as besoin de psychothérapie, ben il faut être capable de l'offrir. Et oui, il faudrait investir, même dans les CLSC.
Ouais. Ben, écoutez, là, on va... C'est quoi, là, la prochaine étape? Là? Où en sommes-nous, là? Parce que c'est pas... Quand on lit ça, cette nouvelle-là, c'est pas vraiment rassurant. Il y a de l'argent, mais il y a quand même de l'attente. Puis on a l'impression que si t'as du fric, tu peux avoir des services en psychothérapie, mais si t'en as pas, tu prends un numéro, tu te mets en ligne.
Mais en même temps, ce que je lisais, voyez-vous, c'est qu'avant la crise, il y avait 26 000 jeunes qui étaient en attente, puis actuellement, après un an, il y en a 19 000. Je pense qu'on peut considérer que c'est un succès. C'est pas souhaitable là, d'avoir 19 000 personnes en attente, on s'entend.
Mais est-ce que c'est le vrai chiffre, ça, d'après vous, 19 000?
Parce que je suis pas capable de vous le dire, monsieur Dupuisat, hein? Parce que la façon dont on fait disparaître les gens sur des listes d'attente, vous savez, on peut être très créatif. On peut être très créatif dans la façon de regarder les statistiques. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus de gens en attente compte tenu de la durée de la situation. Alors,
Plus en attente qu'on le pense, justement parce qu'il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de façon de le savoir.
Il y a des répertoires, mais ils sont quantitatifs et je ne peux pas répondre pour les listes d'attente du ministère de la Santé parce que je ne les ai pas. Mais c'est sûr qu'il faut s'assurer que, vous savez, une requête, moi j'ai été neuropsychologue bien longtemps en santé mentale, puis une requête, à partir du moment où elle est acheminée sur le bureau du professionnel, elle disparaît de la liste d'attente. Mais ça ne veut pas dire que le service est offert le lendemain matin, parce qu'il y en a peut-être 25 requêtes sur le bureau du... Et c'est ça que je suis pas en mesure de dire. Je ne le sais pas, mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, et je la sens, une volonté de trouver des solutions pour la santé mentale actuellement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Faut essayer de trouver par quel bout prendre ça, puis on essaye de collaborer à ça. Mais moi-même, je me lève le matin en me demandant comment on va arriver à desservir toute la population avec les besoins qu'on a actuellement.
OK. En conclusion, Mme Groulx, là, si ça va pas, là, si vraiment quelqu'un qui nous écoute, ça va pas, on peut aller à l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi?
Quand ça va vraiment pas, puis on est en crise, là, les centres de crise, les urgences, faut regarder aussi. on peut quand même s'adresser au CLSC hein, pour être référé à des centres de crise. Puis ça dépend à quel degré ça va pas. Mais ce que je conseille actuellement, c'est de pas rester isolé. Déjà trouver quelqu'un dans l'entourage là quand on sent qu'on va péter les plombs, qui est capable de nous, à qui on a confiance, puis qui est capable de nous guider dans notre façon de réfléchir, ça peut être un facteur de protection. Écoutez, nous on essaye d'aider la population à trouver les ressources actuellement aussi. Mais ça déborde de partout. Mais je pense qu'il faut pas rester seul. Il faut essayer de frapper aux portes où on peut avoir de l'information et essayer de trouver des gens de confiance justement qui peuvent nous aider dans la démarche. Parce que quand on est vraiment, par exemple, dans un épisode dépressif majeur, là, on est même plus capable de faire ces démarches-là parce qu'on est trop malade souvent. Alors donc, faut pas hésiter à lever le drapeau, même dans notre environnement proche.
Très bien. Christine Gros, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.